Alors, nous sommes dans la gare centrale de Bruxelles et nous venons de retrouver Anne Herbault. Anne Herbault qui vit à Bruxelles, auteure, illustratrice d'un certain nombre d'albums dont nous avons déjà parlé dans cette émission Un caillou dans la chaussure. Et Anne Herbault nous a proposé de déambuler un petit peu et de démarrer notre prise de son pour faire connaissance avec elle ici dans la gare centrale. Parce que, ben voilà, il y a aussi des petites particularités à Bruxelles quand on fait une prise de son.
Alors bonjour, en fait moi je ne suis pas du centre de Bruxelles, donc les gares c'est mes lieux de passage et de transit dans les villes. Moi je vis en lisière dans un lieu assez que je cache un peu. Donc je passe pas si souvent que ça par le centre, mais alors j'ai pris gare centrale parce que Bruxelles a une particularité, c'est qu'il est traversé par les trains. On a d'ailleurs éventré Bruxelles pour ces trains dans les années 60. Donc en fait, contrairement à Paris, on ne réémerge pas à la surface de la ville. On peut traverser Bruxelles en souterrain. Ce n'est pas toujours très beau pour la ville. Ce que j'aime aussi beaucoup dans les gares, c'est les passages. Et Bruxelles est un peu une ville de passage, puisque c'est la Belgique est un petit pays coincé entre des pays qui bougent, des gros pays. Et donc on a toujours été... on a toujours été une sorte de territoire de passage et ça se passe bien, ça se passe mal. On cohabite aussi au sein du pays. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dans Bruxelles, c'est bon, déjà il y a les trois langues nationales qui se côtoient, mais comme c'est une ville européenne et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, eh bien en fait on entend plein de langues et ça j'aime beaucoup. Donc j'aime bien les gares aussi parce qu'il y a les appels qui sont en fait une nouvelle langue parce qu'en général on ne comprend rien. Et ces appels ont une sorte d'accent du pays, plutôt de la ville même, mais... c'est une langue un peu à décoder et qui donne plutôt une ambiance puisque c'est assez désarticulé par le micro et c'est à nous de réarticuler les choses. Et donc voilà, ici on est dans le hall central, je demande beaucoup d'efforts au micro et à la preneuse de son parce que je le mets dans des situations très compliquées pour la prise de son. Et voilà, et je vais essayer de parler en milieu urbain de choses de mon travail et ça va être difficile parce qu'en fait je travaille beaucoup dans le silence et en bordure, donc là on va essayer de faire les deux en même temps.
D'accord, donc effectivement vous me disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément, vous venez de le confirmer, pas forcément citadine. Vos sources d'inspiration, on l'a quand même remarqué, c'est la météo, les arbres, les forêts, mais aussi les petits objets du quotidien. Un travail tout en finesse. Et bien là, je crois que voilà, ma voix est peut-être couverte par le fameux micro dont on n'entend pas très bien le détail du propos. Et bien on va continuer à avancer un peu dans Bruxelles et peut-être trouver un endroit un peu plus calme pour continuer à échanger sur des questions peut-être un peu plus intimes et le fruit de votre travail dans le silence.
On va se resserrer sur un coin dans Bruxelles et quitter le lieu de passage où toutes les lignes se croisent ici dans la gare centrale. À tout de suite.
Alors, on poursuit notre courte promenade au frais en extérieur avant d'aller se poser dans un petit café avec en compagnie d'Anne Herbault et qui nous présente donc un très joli petit passage avec une grande verrière.
Alors ça, c'est un passage assez touristique dans Bruxelles, mais il mène à un lieu de perdition qui est une grosse librairie. Donc quand je sors en ville, généralement, c'est aussi pour aller faire le plein de livres. Donc c'est un des premiers passages couverts en Europe, en tout cas en Europe du Nord, je pense. Donc très agréable, et alors c'est très belle aussi parce que c'est une galerie royale, et comme chez nous tout est royal, et bien voilà, nous allons emprunter la galerie royale, et puis sur les côtés c'est des galeries des princes, donc voilà, nous sommes en belle voie royale pour aller vers un bon chocolat chaud ou un café. Alors toujours dans cette galerie, il me vient à l'esprit que j'ai oublié de vous signaler que Bruxelles est aussi un lieu de perdition dans le sens où, d'abord, c'est habité souvent par des géants. Et qui dit géant dit ogre. En fait, nous sommes très gourmands, je pense. Je parle pour moi, mais j'insère beaucoup de Belges avec. Et nous sommes entourés de fécabos, c'est-à-dire que le chocolat a une place très importante dans notre vie. Et on a énormément de chocolatiers Et voilà. Et moi, je suis très chocolat. C'est-à-dire que j'aime... Voilà, c'est comme déguster un vin. Parfois, je pense les bons chocolats bien noirs. C'est un plaisir. Donc là, j'en parle parce qu'on passe devant énormément de chocolatiers au centre de Bruxelles.
Donc là, on passe devant une librairie spécialisée jeunesse, une grande librairie apparemment.
Alors c'est une des grosses librairies à Bruxelles. Je tairai le nom pour pas faire de publicité ou ne pas citer les autres. En fait, ils ont agrandi il y a pas si longtemps et ils ont vraiment développé aussi, en plus de la grosse librairie adulte, Beaux-Arts, etc., ils ont développé une partie livre jeunesse et bande dessinée et qui est vraiment un petit coin, une sorte de presque une deuxième librairie à côté de la à coudée à la grosse et la section BD est assez particulière, c'est carrément décoré en salon. Donc on peut s'asseoir un peu années 60, ça c'est un peu bizarre et c'est assez agréable et voilà, c'est une des grosses librairies de Bruxelles et ils ont beaucoup en jeunesse.
Alors nous venons de pénétrer dans un endroit plus feutré, donc dans une grande librairie en compagnie d'Anne Herbault, et qui va peut-être faire quelques commentaires puisque c'est un lieu qu'elle fréquente assez souvent.
Alors justement j'en profite en fait pour l'instant, j'ai une fascination, surtout une délectation des mots. Et là, on passait devant justement des livres de recettes que, en général, je ne regarde pas. Mais récemment, j'ai acheté des livres de recettes juste pour goûter des mots, en fait. Pour les manger, pour les goûter, pour les remettre en bouche. Parce qu'en fait, il y a des mots qui se perdent. Alors, il faut les ressortir d'une petite boîte et les manger. Je parlais de chocolat, on n'en est pas loin de nouveau par rapport aux mots. Donc voilà, il y a... aussi les dictionnaires un peu particuliers sur des outillages ou par exemple cet été j'ai découvert des noms de salades tout simplement et par exemple j'ai découvert une salade qui vient peut-être plutôt de chez vous mais ça s'appelle la craquerelle du midi et elle quand on la mord elle fait le même bruit que craquerelle. Donc c'est vraiment les mots de la langue ont les saveurs et les sons de ce qu'ils sont en fait. Et voilà, c'était juste pour parler de ça qu'on s'était arrêté ici.
Mais dans les livres que vous avez déjà écrits et illustrés, on peut remarquer que les mots ont une place déjà importante, qu'ils ne sont pas choisis d'une manière anodine. Est-ce qu'il y a un travail, est-ce qu'il y a un de vos livres dans lequel vous êtes un peu plus penché sur cette question des mots ? En fait, je pensais à l'idiot.
Oui, l'idiot, c'est quoi être juste et aussi j'ai l'impression que la maladresse est plus juste et que ce qui fait l'humain, c'est la maladresse et donc c'est comment arriver à une gaucherie juste. Et un dessin, c'est la même chose, c'est quoi bien dessiner, c'est quoi représenter les choses, est-ce que c'est... des codes, est-ce que c'est purement visuel ou est-ce que c'est aussi dans les fragilités ou les non-dits du trait ou des manques de couleur ou de ce qu'on a enlevé en fait. Ce qu'on a enlevé est là en fait, dans l'écriture et dans l'image. Ce qu'on a hésité à mettre aussi. Donc voilà, c'est tout ce travail. Souvent, je me dis que quand je vois mes livres imprimés, j'aurais dû aller plus loin, qu'il y a plein d'erreurs. Et parfois, je me dis, même si j'avais été plus loin, il y aurait l'idée d'un polissage, mais pas de l'ordre du galet. C'est-à-dire que le polissage doit arriver de l'ordre du galet où c'est... Dans le galet, il est parfait parce qu'il y a encore des impuretés visibles. Et si on arrive à un polissage trop grand, il n'y a plus rien pour s'accrocher. Il n'y a plus rien qui accroche. Et ce qui accroche, c'est ce qui touche. Donc c'est ce qui va révéler des choses. Qui va hérisser le lecteur aussi. Donc voilà, c'était plus de cet ordre-là.
Et en même temps, à l'opposé, vous avez travaillé aussi là, à l'opposé des mots, du choix des mots. Vous avez travaillé sur un titre de livre, Le silence, Silencio.
Alors, le Silencio, c'était vraiment un travail, je vais résumer vraiment à la grosse louche, mais c'était un travail où je voulais opposer, pas vraiment, mais confronter le bruit et le silence, mais aussi bien dans le texte, dans le sens des mots, donc dans les expressions aussi, dans la mise en page et aussi dans l'image, c'est-à-dire que le blanc du papier, la question du blanc du papier, qu'est-ce qu'il vient dire ? Il permet la lecture comme le blanc, ma respiration entre les mots, vient espacer les choses, faire respirer un texte. Et Silencio, il permet à l'image de, en fait, d'avoir une profondeur. Il y a les planches où il n'y a plus de blanc, ça devient un motif plat, comme le papier peint. Et le papier peint aussi est très présent dans mon travail. Donc l'image se récrase parce qu'il y a... L'image s'écrase parce qu'il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de blanc.
Et la respiration entre les mots, si on parle, effectivement, mais aussi la respiration de la pensée, des images mentales, et donc de l'imaginaire.
Et des marges aussi, les marges. Alors c'est étonnant parce que dans mes livres, j'ai beaucoup de respiration, j'ai des textes assez sobres, j'ai beaucoup de blanc, j'ai des pages noires aussi entières. Et alors que j'ai l'impression que dans ma tête, dans la production de mes livres qui se passe dans ma tête, le débord de mon imaginaire, c'est parfois j'ai l'impression que je suis en apnée, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop et je dois tout le temps travailler entre quelque chose qui a l'air très apaisé en final dans le livre, mais où c'est presque un combat. Et je surnage, quoi. C'est ma tête devant le monde, parfois ma tête produit énormément de choses et je peux pas. Physiquement, je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne parviens pas à... Et heureusement, peut-être, mais parfois, j'ai des choses tellement énormes dans ma tête que c'est épuisant aussi de les garder. Donc, c'est vraiment un travail de... Oui. Et là, ça fait plus de 10 ans que je fais du livre et je commence vraiment à essayer de voir comment faire les choses sans que ça me déborde complètement. Je pense que c'est un cap aussi important. Ce qui me rassure, c'est que je vois que j'ai un entêtement, même pas réfléchi, mais comme une nécessité d'aller gratter toujours les mêmes sujets. Et pour l'instant, c'est aussi une nécessité d'écrire sous quelque forme que soit. Je parle d'écriture de l'image, d'écriture du son, mais vraiment, chaque fois que je me dis que là je me pose, ça revient parce que je dois aller continuer à. J'ai l'impression d'arriver de plus en plus pointu et chaque fois que j'arrive à quelque chose de trop pointu où je me dis je vais arriver au point, à partir du point ça se réouvre complètement. C'est comme quand on regarde à travers un. On voit un petit. On fait un. Ou la perforatrice un petit trou dans une feuille de papier, ça a l'air minuscule, on se dit mais il n'y a plus rien. Et puis on rapproche le papier de son œil. Et on commence à regarder par le trou et en fait, ça devient gigantesque ce qui se passe derrière le trou. Mais le fait qu'on aille regarder derrière le papier par le trou amène cet autre regard qui repart en fait de la pointe à quelque chose de beaucoup trop large, quoi. Donc voilà.
Alors on va faire une petite pause, on va respirer et puis on va changer de lieu, on va sortir de la librairie. Alors nous voilà dans un café, tout aussi bruyant finalement que la gare centrale et que la grande rue couverte que nous venons de traverser, dans la librairie aussi. Et en fait on commençait à discuter un petit peu, et je crois qu'on est rentré tout de suite dans des détails qui sont récurrents dans vos livres, et notamment les cafetières. Ça vient d'où ça ? Cette récurrence, ces petites cafetières qui se promènent dans beaucoup de vos ouvrages.
Alors les cafetières. Alors les cafetières sont apparues très tôt dans mon travail. Et je pense que la cafetière était présente depuis mon enfance. Mon père faisait son café avec. Il ne l'achetait pas moulu déjà. Donc il y avait l'odeur du café était présente en tout cas une partie de mon enfant. Et il faisait le café à la chaussette comme on dit. Donc il y a un bruit, il faisait le café dans une cafetière en mauvais émail et il y a un bruit très particulier, c'est très sonore. Alors les cafetières aussi ont des formes très simples, c'est une sorte de rectangle avec un bec et un bras sur la hanche. Donc en fait très vite, comme les cruches et les théères, on peut en faire des personnages ou des animaux. Pour moi, ça rencontre l'éléphant. Alors, le pachyderme a énormément d'importance aussi dans mon travail. Ça rencontre l'oiseau et ça rencontre le personnage humain. Il y a quelque chose à voir avec le chapeau aussi. Le couvercle de la cafetière et de la théière ont à voir avec le bonnet, qui est aussi de plus en plus présent, et qui rejoint le tricot, qui est aussi très important dans mon travail. La cafetière vient, on m'a appris ça il n'y a pas si longtemps, du mot caput capitis, la tête en latin, et pour moi aurait du coup un lien avec aussi le côté peut-être de la folie, c'est-à-dire dans la folie, la folie, pas la, quelque chose de... Oui, il y a une sorte de dans l'imaginaire, on peut aller vers ces marges où on est entre raison et folie, ou réel et... Il y a quelque chose à voir avec ça. En tout cas, de l'ordre de la pensée, mais de la pensée peut-être dans la démesure ou sur le bord. Que permet le livre aussi. Je me perds déjà dans mes cafetières, mais il y a beaucoup de choses. Alors aussi, la cafetière est un élément, ça c'est très important, qui renvoie au temps. Le temps est un de mes thèmes depuis l'école. C'est vraiment, j'ai découvert ça après coup, mais c'était déjà un thème que j'allais chercher, interroger, retourner dès mes études, et qui est maintenant central dans tout mon travail, et qui est central à juste raison, c'est que pour moi, le livre est une matière temps. En plus d'un objet de papier physique en trois dimensions, c'est un objet temps. C'est-à-dire qu'il y a un déroulement de la lecture, et je ne vais pas développer tout ce point-là, mais pour moi, le livre, c'est du temps. Et donc, à la fois, je travaille avec du temps et je travaille sur le temps. Et je travaille avec le temps comme thème dans mon écriture, je travaille le temps comme matière pour écrire. Et donc...
Le temps dehors et le temps dedans.
Les limites, justement, et ça aussi un peu avec... on pourrait côtoyer avec la folie, entre guillemets, c'est que tant dehors, tant dedans, les météorologies internes, c'est aussi des histoires d'état d'âme ou de débord ou de choses qu'on n'arrive pas bien à cerner, des territoires un peu qu'on longe ou qu'on... dans lesquels on entre, mais on se perd, on revient, on les ouvre à la lecture, et puis on ne sait pas jusqu'où ça va être lu. Mais là, je me perds complètement dans ce que je dis.
Oui, parce qu'on est dans le mouvement de la pensée, on est en train de le vivre. Allons-y, continuons.
Je laisse aller ma pensée, mais c'est comme ça que je suis arrivée au papier perforé et au confetti. Mais non, une chose qui est très pensée, par contre, et très sûre, c'est que pour moi, la cafetière, ça inscrit le temps. Dans le sens, c'est une sorte de... Pas symbole. J'aime pas le symbole parce que pour moi, le symbole est fermé. Donc, ce serait presque une métaphore ou une allégorie si on lui met des bottines. Mais à plusieurs niveaux, c'est que faire du café, il y a une sorte de... Pas de rituel, parce que je suis pas dans les rituels et ni dans la culture du thé chinoise et japonaise. Je suis une impatiente, moi. Donc, je n'ai pas du tout de rituel. Mais il y a quand même l'idée... moi, j'ai pas de machine à café. Je fais bouillir l'eau sur le gaz. Il y a déjà un très beau bruit. Et puis je passe le café quand j'en fais. En tout cas, je passe le thé. Et donc, il y a un temps pour faire ça. Il y a un temps de l'écoulement. Il y a des bruits. Et ça, c'est un des premiers points. Après, il y a l'idée que, et ça rejoint un conte assez fascinant, un ancien conte où on a un bol d'un liquide très chaud et il faut qu'on boive, on doit attendre. Et si on ne veut pas attendre, il faut souffler. Et c'est là qu'on a découvert que l'homme était magique parce qu'il soufflait le chaud et le froid, suivant qu'on met sa bouche d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est absolument génial. Donc il y a ce temps de refroidissement et du souffle. Et le souffle, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qui a à voir avec la pensée et l'écriture. C'est ce qu'on sort de... Par le souffle, on sort des choses. Par les mots. Les souffles, c'est les mots. Je ne sais pas. Peut-être. Et en tout cas, maintenant, ici, c'est du souffle. et alors aussi, une autre marque très sérieuse. Là, je ne divague plus, mais du temps, pour moi, dans les cafetières, c'est que... et ça rejoint un autre niveau que j'aime beaucoup dans entre guillemets, dans l'écriture. Et dans... Ma façon de construire en fait l'écriture, surtout en bande dessinée, c'est les strates. cette espèce de géologie du temps et de l'écriture et dans l'image, les couches de lecture, les couches dans l'image. C'est-à-dire que dans une cafetière et dans une théière, il y a des strates qui s'inscrivent et c'est les strates de tanin. Et on dit culotter une cafetière ou une théière et ça ne part plus, c'est inscrit. Et c'est du temps qui s'inscrit par niveau dans les cafetières et les théières. Donc ça aussi, ça indique pour moi quelque chose du temps. Voilà, je crois que c'est ça. J'aime beaucoup aussi les théières mises ensemble, ça fait des conversations. Suivant qu'elles se tournent le dos ou qu'elles se parlent.
Alors je crois que dans ces objets quotidiens, le dernier de vos livres se rapproche encore plus des petites choses de la vie, du quotidien, qui peuvent être anodines au premier abord, mais qui finalement, je crois, font sens aussi, si on prend le temps de les observer, de réfléchir, d'y penser, de les prendre en compte dans le quotidien.
Alors les moindres petites choses, déjà j'ai été assez contente du titre qui est venu assez vite. En fait c'est une illustration que j'avais fait avant ce livre, où j'avais mis un petit personnage qui arrosait une plante en pot et j'avais mis les moindres petites choses pour montrer qu'il y avait que c'était là qu'étaient parfois les choses importantes pour qui allaient devenir peut-être des grandes choses. Mais ce livre sur lequel je travaillais, c'était aussi quelque chose. Alors, apparemment, tout le monde trouve ce livre assez apaisant et serein. Et pour moi, c'était justement quelque chose, pas quand je le travaillais, mais pour moi, ça parlait de quelque chose devant des particules ou des moindres petites choses. Ou un instant, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de gigantesque, mais un instant. On ne tient pas debout, c'est-à-dire que c'est sur le débord, c'est sur le trop, quelque chose de trop, et chaque fois que soit ça peut être triste, soit ça peut être beau, mais qu'on ne peut, et à la fin je mets il n'y a plus de mots, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait les mots, on dépasserait, parce qu'on aurait quand on arrive à écrire ou à peindre une chose, ça veut dire que tout d'un coup on a réussi à le mettre dans soi et à le ressortir. Et souvent, devant le monde, devant le temps, j'ai l'impression que j'arrive plus. C'est quelque chose de trop gigantesque dans toutes les formes d'adjectifs qu'on peut trouver pour que j'arrive à le comprendre, mais dans le sens à prendre dedans. Et c'est la question aussi de l'écriture, quoi. Comment on fait pour... Et c'est un besoin, en fait. C'est pour ça que je crois que j'écris aussi. C'est un besoin de digérer ce que je vois. C'est pas digérer, j'aime pas ce mot-là. C'est pas non plus retranscrire, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est évacuer une partie de quelque chose qui m'a bouleversée parce que c'est pas tenable, ça prend trop de place. Voilà, je suis beaucoup trop petite pour survivre à ces moments-là. Et c'est ça qu'elle a, Madame Avril, qui est pourtant une espèce de petite madame un peu solide, bien ancrée, qui a l'air bien enterrée, avec un gros lapin dans son petit jardin. Mais dès qu'elle sort de ce jardin et qu'elle voit l'immensité, ou le minuscule mais immense, c'est-à-dire que pour moi c'est un livre sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. On est de l'ordre de la particule et du gigantesque de l'espace, de la dimension temps, et c'est prodigieusement beau, même quand c'est triste ou douloureux, et c'est prodigieusement insoutenable. Et on passe justement de choses qu'elle vit en faisant un gâteau dans sa cuisine. Donc la première page, on est sur la nappe. Elle casse des œufs, déjà, voir un œuf, c'est une beauté absolument prodigieuse. Et on arrive devant les montagnes qui ont une dimension de paysage gigantesque. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Casterman. J'avais justement dit à Casterman, je crois que maintenant, comme j'avais fait beaucoup de livres où je jouais sur les effets de papier, des pliages, des trous, je me suis dit, je vais faire un livre normal, il n'y a pas de raison. Et en fait, en travaillant ce sujet, je me suis dit, mais non, il faut un débat. Je dis, parce que j'avais déjà envisagé de faire un triptyque. Et je me suis dit, mais c'est là le triptyque, ça ne peut pas être ailleurs. Et donc, j'ai essayé de me battre en me disant, non, je ferai sans triptyque. Et puis, à un moment, c'était comme une évidence. Et j'étais voir l'éditeur, j'ai dit, je pense que ce serait bien que ce soit un triptyque. Et ils m'ont laissé carte blanche. Mais j'étais débordée par... Et quand on ouvre la page dans le triptyque, il n'y a plus de mots. C'est-à-dire que c'est l'image qui prend le dessus, mais l'image se déborde, en fait. Et quand on oublie de refermer le triptyque d'avant, on a 4 pages de front. Et ça, c'est pensé aussi pour qu'il y ait une continuité. Et donc, voilà, c'était... Il y a très peu de mots. Il y a très peu de mots. Parce que je n'arrive pas à dire. Et voilà, c'était sur... l'infime qui peut devenir gigantesque. Et ça n'a rien de mystique ou de... C'est vraiment le réel qui tout d'un coup peut toucher par une lumière ou parce qu'on regarde tout d'un coup, parce qu'on sent ou parce qu'on... Ça a à voir avec, à mon avis, aussi une sorte de langage qu'on a créé de sensibilité. On a créé des terrains de sensibilité dans notre construction de vie où il y a des choses qui vont faire écho chez nous plus que... Et pas un autre, et parce qu'on a déjà vu cette lumière, on a déjà. C'est comme un révélateur, c'est-à-dire qu'on a préparé une sorte de papier où on ne sait pas ce qui se passe, et tout d'un coup la lumière tombe sur quelque chose, et on se retrouve devant quelque chose qui se révèle par rapport à une matière sensible, peut-être, je ne sais pas. Alors tout à l'heure, on parlait du trou dans le papier. Et... qui me permettait d'abord de ne voir qu'un point, et puis quand on s'approchait ou on approchait le papier, on revoyait très large quand on collait l'œil à la perforation du papier. Et quand on perfore le papier, qu'est-ce qu'on a en main ? On a un confetti. Ça aussi, c'est un peu une relation au nord, c'est que nous, les carnavals sont assez importants, et je pense que j'ai un côté un peu... J'ai un peu les deux facettes dans mon travail, c'est que j'ai un côté peut-être de la tristesse, du grave, de la gravité, et derrière ça, je garde, j'espère en tout cas, un côté espiègle. C'est-à-dire que espiègle dans le jeu avec les mots, mais il y a un petit côté de l'autodérision du carnaval. J'aime pas le carnaval dans le cliché carnaval, mais il y a quelque chose de l'espièglerie, je dirais. Et donc tout ça pour arriver au confetti. Que je n'utilise pas beaucoup, mais par contre un petit confetti au creux de la main peut renvoyer à l'idée du minuscule et donc de la miette. Et pour moi, de plus en plus, la miette, l'effritement, tous les mots qui sont autour du grain, de la graine, de la miette, du galet, du caillou, me fascine. Alors ça peut aussi aller vers le gigantisme. C'est par exemple, il y en a dans les moindres petites choses, c'est les moranes, qui sont une accumulation gigantesque de déboulis qui vont du rocher au grain de sable. Et c'est ce que les moranes, c'est ce que les glaciers poussent sur les côtés. C'est les grands talus de roches qui est en montagne. Que les langues de glace poussent et crachent et concassent et créent, oui, créent. Et voilà, c'est vraiment de plus en plus, je vais vers ces choses-là. Parfois, un point sur une page suffit. J'ai aussi une fascination pour... depuis longtemps aussi pour les arrosoirs et tout ce qui est percé, c'est-à-dire c'est pas par rapport à l'écoulement, mais quand je dessine, faire des points, c'est-à-dire qu'un pommeau d'arrosoir, une passoire, tout ce qui est de l'ordre du point qu'on peut sentir du bout du doigt, à l'impression on ne le sent pas, mais il y a quelque chose du picotement, et ça, à mon avis, ça a à voir aussi avec la miette. Et l'arrosoir, c'est aussi l'écoulement de l'eau, le temps. L'arrosoir, il est là, il attend. Les arrosoirs ne font qu'attendre. Ils se remplissent, ils se vident. Voilà. Il y a aussi des hanches et des mains sur la hanche. Ils attendent. Il y a un côté très pachyderme dans les arrosoirs aussi. Ouais.
on tourne en rond là, hein. On revient, ça s'imbrique. Chaque élément en rappelle un autre, tout fait sens et tout est lié. Et en même temps, c'est pas étouffant. Au contraire, il y a toujours, donc on parlait de respiration tout à l'heure, de pages blanches, d'espace, de débordement. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on est dans des largeurs comme ça, on peut aller loin, on peut envisager, on peut, et en même temps, pouf pouf, on peut revenir dans du tout petit, de l'intime, de l'ordre de la miette, toute petite taille. Et je trouve ça particulièrement beau parce que du coup on est dans du mouvement, on est dans du flottement aussi. Et je pense que c'est très 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 humain tout ça. Je crois que c'est vraiment une sensibilité, une vision de l'humain très très touchante et qui transpire dans vos livres.
Il y a du minuscule dans le gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a la fragilité dans la peau pachyderme. C'est-à-dire, j'étais dans les contresens, on parle de fragile et je vous amène le pachyderme, pachy, l'épaisseur, le loup. En même temps, un éléphant, quand il court, c'est quelque chose de gigantesque, mais c'est aussi l'éléphant est sans défense. Oui, c'est... En fait, quand j'écris, c'est ça aussi, je pose un mot. Il n'est pas juste parce qu'il est trop implacable, un mot tout seul. Donc je mets un autre mot à côté qui va pas l'affaiblir, mais c'est comme quand je peins. Si je prends du bleu de cobalt directement, c'est un beau bleu, mais il est beaucoup trop fort. Et donc ce que je dis toujours, c'est que je vais l'éteindre. Et je l'éteins pour qu'il soit encore plus beau, c'est-à-dire que je le salis. Donc je veux lui mettre un tout petit peu de rouge, de cadmium et un peu de jaune pour l'éteindre. Parce que sinon, il vibre tellement fort qu'il chahute et il perd son ventre. Moi, j'ai besoin des couleurs qui ont du ventre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être que en surface. C'est-à-dire qu'il doit s'ancrer d'abord dans le papier avec une espèce de quelque chose de plus sombre, de plus épais. Donc, c'est ce que j'appelle éteindre. Ouf, je le mets au fond. Et après, de cette profondeur, il sort. Et il peut aller en surface. Mais s'il n'est que en surface... Il m'échappe et c'est pas que je n'aime pas les peintures où ça reste en surface, mais moi j'ai besoin de cet ancrage de la peinture. C'est exactement la même chose pour les mots. Je pose un mot. S'il est tout seul, il est trop implacable. Donc je vais le mettre un autre mot à côté qui va un peu le parasiter. Enfin, pas le parasiter, comment on appelle ça, égratigner un peu, voilà. Il va y avoir une petite écorchure. Et donc, ils vont pouvoir commencer à se faire des interférences dans nos têtes. Et puis, l'assemblage... En fait, on ne va plus lire un mot et l'autre. On va commencer à lire ce qui se passe au-dessus ou entre les deux. Et donc, on ne lit plus le mot séparément. On ne lit plus deux mots. Mais on lit quelque chose qui n'existe déjà plus. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans le livre, quand on travaille le texte et l'image, c'est ça, c'est qu'on lit quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'on lit jamais le mot et l'image. C'est la lecture se fait quand on a lu les deux. Et que ce qu'on lit, c'est... On lit deux choses et on en fait quelque chose et c'est là que ça se lit. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça dans le vide. Mais on lit du blanc, on lit du vide, on... Et je pense que c'est du coup beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut être le plus juste parce qu'on ne ferme rien. En même temps, on pourrait dire oui, c'est facile, on a tout ouvert. Et du coup, en fait, comme c'est trop ouvert, on panique et on doit tout le temps essayer de refaire des... C'est comme des trous dans une tapisserie, un tissage. C'est le tissage, le tissu, il existe par les fils entrecroisés. Mais ce qui fait l'entrecroisement, c'est parce qu'il y a du vide qu'on est en train de fermer avec les fils. Mais c'est là que passent les choses, le tamis.
Alors, vous parliez de couleurs qui ont du ventre, mais vous avez aussi fait...
Aussi, j'ai du ventre.
Oui, mais ça ne se voit pas à la radio.
J'ai toujours la place dans mon ventre pour le chocolat.
Et en fait, vous êtes aussi auteur de très, très beaux livres, sans couleur, ou juste une touche de bleu, comme Autoportrait, par exemple. Cardiogramme. Vous pouvez aussi parler de ce besoin finalement de faire sans couleur, entre le gris, le noir, et peut-être aussi avec une source d'inspiration de la bande dessinée, revisitée, puisque vous bousculez un peu les formes traditionnelles aussi de la bande dessinée dans ces livres-là.
Mais le trait, il y a toujours aussi un trait qui s'ancre plus que d'autres. J'ai besoin, par exemple, d'une masse noire ou d'un trait plus appuyé, et puis pour aller vers le plus léger. Donc je pense qu'il y a dans les griffes du papier, il y a aussi un besoin d'ancrage où je salis, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais aller frotter un trait avec mon doigt. J'ai besoin aussi de l'ancrage dans le trait serait plus dans le côté graphique aussi. C'est-à-dire que le trait, il doit être assez construit pour tenir tout seul sur une page. Un trait, il doit être placé de façon à ce qu'il tienne toute la page. C'est le trait qui va tenir la page et pas la page qui va tenir le trait. Mais la bande dessinée, c'est très complexe d'expliquer parce que non seulement il y a le rapport texte-image, mais en plus, il y a tout ce qui se lit entre les cases. Donc ça, c'est encore beaucoup plus dense. C'est vraiment un tissage où il y a plein de fils qui m'échappent. Je pense que je vais même aller vers des formes d'écriture où je vais écrire sans image. Je ne sais pas, mais pour moi aussi, quand j'écris sans image, tu parlais tout à l'heure de la délectation des mots. Quand j'écris sans image, les images, elles sont dans les mots. C'est-à-dire que j'écris beaucoup avec des images. D'ailleurs, quand j'essaie de parler de mon travail, j'amène souvent des images. Vous avez déjà eu la morale, vous avez eu l'éléphant. Donc je pense que je ne m'en dépêterai jamais. Même si je quitte l'image juste pour les mots, je m'arrangerai toujours pour mettre de l'image quelque part.
Et quand vous travaillez à partir des textes des autres, donc les mots sont déjà là, je pense surtout à la petite sœur de Kafka.
Mais de plus en plus, j'essaie de. Quand on me propose maintenant des textes, parfois je m'interdis de les lire pour pas me donner envie, parce que je suis parfois très envie d'illustrer, mais pour moi, je suis pas une très bonne illustratrice dans le sens que je suis trop liée au texte, à mes textes. J'ai plus non plus assez de temps pour déjà faire tout ce que j'ai besoin de sortir de moi. Et en fait, très vite, je souffre un peu de ne pas pouvoir passer par le texte. De plus en plus, je remarque que j'ai... C'est peut-être un moment dans ma vie, mais pour l'instant, je sais que j'ai de plus en plus... je garde un plaisir terrible à faire de l'image, mais le texte est devenu très important aussi. Et donc, c'est un peu un combat, en fait. Et puis, j'ai l'impression que... C'est très difficile d'être très juste dans l'image. Qu'il y a beaucoup de choses qui se que dans l'image, très vite, on peut arriver à des choses gratuites et faciles. Et donc, pour l'instant, et on est tellement entouré d'images que j'ai presque, pour moi, je suis en danger tout le temps. C'est-à-dire que je suis en danger de. Et en fait, oui, ce qui m'intéresse plus du tout pour l'instant, c'est faire de l'image pour de l'image. C'est-à-dire, je n'ai plus l'apaisement même. Même pour moi, de me dire je vais peindre juste pour me faire plaisir. Ça doit vouloir dire quelque chose. Et donc, du coup, c'est pas reposant. Mais je veux dire, je ne peux plus. L'image ne me sauve plus, même pour moi, dans quelque chose de. Juste de purement sensuel. Et peut-être je vais y revenir, parce que le jour où j'aurai besoin de repasser par là, je le ferai. Mais pour l'instant. Je veux pas me. J'ai peur de me tromper et de tromper par l'image. De pas être assez juste. Parce qu'il y a souvent des choses très séduisantes dans l'image. Peut-être qu'il y a la même chose dans le texte et que comme je suis un peu innocente dans le texte, je ne le vois pas encore tous ces. Alors ce jour-là, je verrai des pages blanches définitivement.
Donc si j'ai bien compris, le besoin et la volonté de faire d'une manière plus ample et plus insistante le détour par les mots, par le texte, de plus travailler cet aspect-là du livre ou tout au moins cet aspect-là de l'expression de soi et de son imaginaire.
Oui, en fait, c'est écrire avec le texte et l'image. Pour moi, c'est une écriture, ça va. Quand je suis que dans l'illustration, je me pose beaucoup de questions sur À quoi sert l'image ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que tout ce que je mets dans cette image n'est pas... Est-ce que tout est essentiel ? Est-ce qu'il n'y a pas du bavardage ? Voilà. J'ai très peur que l'image bavarde. Et on a tellement d'images qui bavardent partout autour de nous que je suffoque un peu, en fait.
Donc, je comprends mieux. On reste dans l'articulation. Finalement, c'est complètement indissociable, l'image et le texte. Les deux s'articulent, se nourrissent l'un l'autre, s'éclairent l'un l'autre et sont dans ce dynamisme-là, on va dire, susceptible de créer des images mentales et tout simplement du sens qui émane à la lecture. Voilà.
Mais ce qui m'empêche de faire... Là, j'ai encore accepté un projet qui m'a vraiment... J'ai pas résisté. C'était des phrases très simples, en plus historiques, très poétiques. Et ça amenait des images, mais c'était une évidence. Avec en plus un bagage derrière qui n'était pas anodin. Mais je sais qu'en le faisant, j'ai dû me battre pour pas arriver juste quand je calais à faire des images jolies, quoi, des choses séduisantes. Et quand je fais que l'image, c'est plus difficile pour moi de me protéger.
C'est plus difficile parce qu'il faut chercher. Voilà, c'est ça. Et puis parce qu'il faut à tout prix chercher. Il faut que vous en passiez par l'expérience de vous en soi, que ça fasse sens.
Si je dessinais, j'avais qu'une des mains. C'est-à-dire qu'il y a déjà le texte et on m'immobilise une main. C'est le texte immobilisé. Je fais tout avec l'autre main. J'aime bien commencer à aller bouger les deux mains et à mélanger les choses. Donc voilà, c'est plus ça, c'est pas un souci qui m'est difficile et que pour l'instant, je me force à ne plus accepter de... Parfois c'est très dur parce qu'il y a quand même des très très belles choses à illustrer. Mais oui.
Anne Herbeau, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé tout ce temps pour pénétrer dans vos pensées, votre manière de travailler ici donc à Bruxelles, et puis au plaisir.
Merci. Alors j'ai préparé une journée sans pluie pour Marseille. C'est formidable et très contente d'avoir un petit bout de soleil de Marseille à ma table aujourd'hui.